beaucoup d'être avec nous à l'émission Littérature.
Bonsoir.
Alors, votre livre est en trois parties. La première partie établit un historique, une généalogie, où vous mettez l'accent sur la nouvelle organisation de la recherche, le renversement de la préséance de la science sur la technique. Du coup, avec l'apparition de la technoscience et son avènement, y a-t-il un changement d'air culturel ?
Je ne suis pas sûre qu'on peut parler d'un changement d'air, parce que ce n'est pas la première fois que la technique prend le pas sur la science. Et on en trouverait maints exemples dans le passé, en particulier à la fin du 19e siècle, ou en d'autres circonstances. Mais disons qu'il y a une convergence d'un certain nombre d'aspects qui font qu'on n'est plus du tout dans le même régime qu'il y a 30 ans, dans les mêmes conditions pour faire de la recherche scientifique. C'est la première chose. En particulier, il y a une préséance de la technique pour faire de la recherche. Je veux dire que les instruments jouent un rôle de plus en plus important dans la pratique même de la recherche. C'est eux souvent qui conduisent les programmes de recherche. Un autre aspect qui est plus connu de tout le monde, c'est l'idée que les sciences sont de plus en plus tournées vers les applications techniques. Et ça, c'est aussi important, c'est pas la première fois, mais disons que les instruments comme moteur de la recherche et la science tournée vers les applications techniques, ça fait déjà deux aspects qui ont plus étroitement associé les sciences et les techniques. Et puis un troisième aspect, qui est plus récent, celui-là, dans les années 2000, je dirais, c'est vraiment l'assignation d'un but explicite au programme de recherche, un but qui est social, un but qui est économique, et d'une certaine manière, les sciences et les techniques sont toutes deux soumises à des logiques qui sont des logiques sociales et économiques.
Vous évoquez les travaux de l'historien des sciences américain, Paul Foreman, pour construire votre position. Vous dites « Ni les discours, ni les pratiques actuelles ne laissent entrevoir l'aube d'une nouvelle ère culturelle. » Est-ce que vous n'allez pas à contre-courant de la pensée dominante en ce domaine ?
Oui, je pense qu'il faut en finir un peu avec les proclamations révolutionnaires. Toute nouvelle technologie prétend apporter la énième révolution industrielle. Et on voit la même chose avec les nanotechnologies qui convergent d'une certaine manière avec les biotechnologies, les technologies de l'information, les neurosciences, la biologie synthétique. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, mais qu'on arrête de nous casser les pieds avec toujours « c'est une révolution industrielle », etc., etc. Je pense qu'il faut apprécier l'évolution, il y a des évolutions certaines, mais les proclamations révolutionnaires n'aident pas beaucoup à comprendre ce qui se passe.
Donc avec les technosciences, pas de nouvelle ère culturelle. Vous écrivez que les milieux scientifiques propagent l'idée de ce nouveau mot d'ordre depuis 2000, qui est la convergence, vous l'avez employé tout à l'heure. La convergence, ma question c'est, est-ce que la convergence est plus adéquate que l'interdisciplinarité ? Et du coup, quelles sont les différences entre la convergence et l'interdisciplinarité ?
L'interdisciplinarité est un mot d'ordre des politiques scientifiques depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle en a été essentiellement l'organisation qui s'est mise en place pour le projet Manhattan, pour la construction de la première bombe atomique, qui s'est révélée redoutablement efficace. Et donc, l'interdisciplinarité apparaît comme un peu la clé, le secret pour avoir une recherche sur projet. Ce qui est aujourd'hui différent de ces mots d'ordre d'interdisciplinarité, c'est que dans les programmes de convergence, qui est le fameux programme de convergence lancé par les États-Unis en 2002, à savoir le programme Converging Technologies for Enhancing Human Performance, il y a très clairement l'orientation vers un but précis qui fait vers lequel tendent les sciences. Il y a une sorte de finalisation des recherches vers un but unique, une sorte de téléologie de la recherche, Et c'est ça qui me paraît extrêmement nouveau et pour le coup assez dangereux, de faire converger tous les échanges interdisciplinaires, parce qu'il y en a des échanges interdisciplinaires, mais de les faire converger vers un but unique. Il me semble qu'il faut laisser à la recherche scientifique une marge de manœuvre et laisser la place aussi à la sérendipité, ce mot très très beau que j'utilise et qui est très utilisé aujourd'hui, pour désigner tout ce qu'il y a de part de hasard et d'imprévus dans le cours des recherches et des découvertes scientifiques.
Pour revenir au concept de convergence, en quoi est-il foncièrement nouveau dans l'histoire de l'humanité ?
Oh, l'histoire de l'humanité est un bien grand mot. Hein. Je n'ai pas la position d'observateur de l'histoire de l'humanité. Il y a des périodes sans doute où les disciplines scientifiques n'ont pas été découpées, fragmentées comme elles le sont depuis en gros 2 siècles dans l'organisation universitaire ou académique de la recherche. Et c'est vrai que certains promoteurs de la convergence ont lancé ce mot d'ordre, c'est une nouvelle renaissance. Par-delà la fragmentation du savoir en disciplines et en spécialités étroites. Moi, je n'y crois pas beaucoup et je pense que les échanges entre disciplines et les échanges entre spécialités ont cours et sont fortement encouragés aujourd'hui. Mais de là à faire converger tous les efforts de recherche dans un but unique, c'est peut-être aller au détriment de ce que j'aime bien appeler la diversité épistémique. Je veux dire par là qu'il y a des traditions, des cultures, des styles de sciences différents et il est important de garder cette diversité car elle est très très féconde et elle peut beaucoup apporter, de même qu'on a souci aujourd'hui de la biodiversité, eh bien on doit avoir souci de la diversité des sciences, me semble-t-il, et de la diversité même des techniques et du savoir.
Et justement, qu'est-ce que peut apporter cette diversité épistémique ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être un aspect aussi important. Les politiques de la recherche ont un énorme impact sur la recherche, étant donné que la recherche, ça coûte quand même assez cher. Et il faut non seulement des salaires pour payer des chercheurs, mais il faut aussi payer le fonctionnement de la recherche et les instruments pour la recherche. Donc les politiques définissent les orientations de la recherche. C'est eux qui définissent, qui font les choix scientifiques, c'est eux qui, dans un climat bien souvent de compétition. Et donc c'est en partie la responsabilité des politiques scientifiques de décider de cette biodiversité, mais épistémodiversité, si je peux dire. Mais c'est aussi, et ça devrait être, aussi la responsabilité des partenaires de la recherche, à savoir les industriels et, pourquoi pas, si on accepte de les engager, les citoyens, et les parties prenantes qui peuvent avoir un mot à dire sur les choix scientifiques et les choix technologiques. Mais enfin là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça commence timidement, l'engagement du public dans la gouvernance des sciences. Mais pour l'instant, c'est encore très très balbutiant et ça reste encore un vœu pieux.
Est-ce que cet engagement du public ne pourrait pas être introduit par les sciences humaines et les sciences sociales ? Je vous cite notamment page 78, vous écrivez « On repère ici une dimension nouvelle des technosciences qui enrôle toutes les expertises nécessaires à la gestion d'un projet. Tout comme on a besoin de physiciens, de chimistes et de toxicologues pour gérer les risques associés aux nanotechnologies, on a besoin de spécialistes de la société et d'experts en opinion publique pour gérer les risques sociétaux et aplanir les difficultés en anticipant les problèmes. Est-ce là la place des sciences humaines et sociales dans ce dispositif ?
Oui, les sciences humaines sont mobilisées explicitement en amont aujourd'hui des projets de recherche. C'est la grande innovation, si je peux dire, des initiatives en nanotechnologie qui a été de convoquer les sciences humaines un peu comme des experts qui devaient contribuer à la recherche et au développement sur en technosciences. Autrement dit, les sciences humaines ne sont plus en position d'extériorité, en position d'intellectuel qui a la position d'observateur et donc toute latitude pour être exercer son esprit critique. Elles sont désormais partie prenante, ce qui leur donne à la fois plus de poids pour faire levier, mais en même temps qui les met en péril leur indépendance et leur liberté critique, d'esprit critique. Donc c'est vraiment une expérimentation sociale, hein, cette intégration des sciences humaines en amont. Il n'y a pas de doute que pour beaucoup des partenaires, il s'agit simplement d'aplanir le terrain, de lisser les difficultés pour éviter le risque de rejet des nouvelles technologies émergentes par le public, par les usagers, par les consommateurs, comme on l'a vu en Europe en tout cas, pour le cas des organismes génétiquement modifiés. Mais cela n'empêche pas les sciences humaines intégrées dans les projets de garder leur esprit critique et d'utiliser quand même ce levier pour alerter sur les dangers justement et pour orienter les recherches vers des finalités ou des objectifs qui sont plus en conformité avec les logiques sociales ou avec l'éthique aussi, parce que l'éthique est aussi une dimension de cette orientation.
On va aborder l'éthique vers la fin de l'entretien, parce que c'est une question épineuse. Dans votre livre, vous faites le point à un moment donné sur la figure du cyborg dans les années 50. Cette utopie du cyborg était-elle ou est-elle une première tentative de convergence technoscientifique, hein?
La figure du cyborg, c'est un peu emblématique des effets des technosciences sur le paysage culturel, j'entends, sur le brouillage de tous les grands partages qui servaient un peu de repère symbolique, gardien un petit peu de la civilisation. J'entends par là le grand partage entre science et technique, qui renvoyait lui-même à un partage entre nature et artifice. Les sciences étudiant la nature et les techniques produisant des artifices. Or, la technoscience a bien évidemment brouillé ce partage, puisque les éléments, les briques élémentaires de la nature elle-même sont aujourd'hui reconceptualisés, reconfigurés comme des outils, des dispositifs ou des machines susceptibles d'effectuer certaines tâches. Le corps humain devient lui-même, le corps et le vivant en général, devient une immense fabrique avec des collections de machines ou une galerie de machines avec des collections de machines qui ont leur propre individualité et qui peuvent s'agencer ou ne pas s'agencer en un collectif. Donc il y a une redéfinition du vivant qui de plus en plus devient similaire des machines, donc du technique. Il y a une redéfinition du vivant par rapport à l'inerte lui-même, de la nature par rapport à l'artifice, mais aussi des techniques par rapport à la société. Je veux dire que dans ces projets de convergence, eh bien, on a tendance à naturaliser la technique comme si la progression technique vers l'objectif de convergence était une progression naturelle impliquée dans l'évolution biologique de l'humanité et comme si on devait marcher dans cette direction comme selon une nécessité naturelle. Donc la figure du cyborg pour moi est un peu le symbole de cet effacement de toutes les de tous les grands partages. Et cette figure des cyborgs, elle est le symbole de la postmodernité. Donc il y a incontestablement une affinité entre le thème de la technoscience et le thème de la postmodernité. Je ne veux pas dire pour ça que la technoscience et le destin a pour destin d'installer l'âge de la postmodernité, pas du tout. Pas du tout, je crois que cette expression de postmodernité traduit une certaine ambiance culturelle, mais qu'elle n'explique rien, et encore moins qu'elle n'impose rien.
J'ai envie de, maintenant du coup de vous interroger sur cette question des limites sur laquelle bute la technoscience. Cette question des limites, c'est l'impossibilité de contrôler, de confiner. Est-ce que c'est inexorable à partir du moment où elle représente elle-même, la technoscience, une exploration sans limite des possibles ?
Oui, cette impossibilité de confiner, c'est un aspect relatif à la volonté d'explorer la nature, toutes les possibilités qu'offrent les briques élémentaires de la nature, que ce soit les atomes et les molécules dans leur mouvement, avec leurs propriétés, surtout lorsqu'ils sont structurés à l'échelle nano, que ce soit les gènes, que ce soit les protéines, tout cela est ou les neurones, tout cela est réinterprété comme étant des dispositifs à notre mis à notre disposition, et donc on peut explorer toutes leurs possibilités. Explorer toutes leurs possibilités, ça veut dire les mettre au travail, et ça veut dire les mettre sur le marché, et ça veut dire les rejeter dans l'environnement. Et évidemment, dans ce jeu extrêmement complexe d'interface avec le vivant et avec l'environnement, on ne contrôle absolument plus. Un exemple de cela, c'est, si vous voulez, l'utilisation des bactéries ou des levures pour fabriquer des organismes génétiquement modifiés ou pour fabriquer des nouveaux organismes même qu'on va lâcher ensuite dans l'environnement, et là on perd complètement le contrôle. Or, un des défis des technosciences, c'est précisément cette espèce de volonté de jouer au non-contrôle, tout en proclamant que puisqu'on travaille à l'échelle nanoscopique, on a un bien meilleur contrôle. Donc il y a une sorte d'ambivalence profonde entre contrôle-non-contrôle et cette volonté de contrôle-non-contrôle fait partie justement des problèmes et des défis pour la gouvernance des technosciences. C'est-à-dire que il s'agit vraiment pour la gouvernance de reprendre en main et de savoir vers quoi on veut et ce qu'on veut faire avec ces dispositifs et lesquels on veut vraiment mettre sur le marché ou mettre dans l'environnement.
On en arrive donc à la question de l'éthique. Vous posez clairement le débat. L'éthique confondue avec l'acceptabilité sociale et notre propre addiction avec les nouvelles technologies. Du coup, ma question, quel rôle vont y jouer les sciences humaines et sociales dans les dispositifs de la technoscience ?
Oui, le rôle des comités d'éthique est aujourd'hui déjà très important dans les choix technologiques des établissements ou dans les pratiques même de recherche. Mais il est vrai que bien souvent l'éthique apparaît comme un simple régulateur de choix déjà faits par la logique de concurrence qui est extrêmement exacerbée dans le cas des technosciences, puisque les technosciences sont développées sur le mode de la course, comme si celui qui ne sera pas le premier dans le domaine des technologies convergentes ou des nanotechnologies ou des biotechnologies seront les derniers au XXIe siècle. Et donc, dans ce climat de concurrence exacerbée, où tout le monde doit, semble-t-il, converger dans une seule direction et être engagé dans la même course, eh bien, la marge des comités d'éthique, qui n'ont qu'un rôle consultatif, semble bien médiocre et vouée à l'échec. C'est pourquoi il y a vraiment un appel aujourd'hui à des mesures de gouvernance beaucoup plus en prise directe sur les instances de décision des choix technologiques et des orientations technologiques. Et ça, c'est un peu ce qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, un petit peu, en Europe aussi. Au niveau de l'Union européenne, il y a une volonté vraiment de mettre en place des codes de conduite, d'intégrer et d'inclure les parties prenantes dans les choix et de faire travailler ensemble non seulement les acteurs traditionnels de l'innovation et de la recherche et développement, mais également d'inclure les citoyens, d'inclure les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, et d'instaurer une innovation en concertation. Alors je ne dis pas que c'est idyllique, je ne dis pas que ça fonctionne bien, mais je dis qu'il y a des essais timides et que ces essais timides de gouvernance nous sont des essais aussi d'apprentissage en commun d'un nouveau mode de démocratie technique.
Pour finir, j'avais une dernière question un petit peu provocante, parce que quand on parle de technosciences, de nanotechnologie, il y a la question qui se pose des transhumanistes. Il y avait ce livre traduit en français de Ray Kurzweil sur le futur de l'homme, qui parle beaucoup de cette singularité que prônent les transhumanistes. Vous éludez assez rapidement vous évacuez même assez rapidement le sujet dans votre livre. Je vous pose une question: pourquoi vous n'avez pas essayé de débattre avec ces idées-là?
Oui, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur les transhumanistes sur la société post-humaine, les post-humains, les post-mortels. Donc c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est parce que à trop focaliser sur cette minorité qui s'inscrit effectivement dans le courant actuel de la convergence, on oublie qu'il y a des problèmes peut-être plus urgents de gouvernance des technosciences qui concernent les choix technologiques qui sont faits, qui concernent la justice sociale, je veux dire par là, à qui profiteront ces technosciences et vers quelle société elles vont nous mener, c'est-à-dire une société de plus en plus individualiste, de consommation à outrance, etc., etc., de transformation de la condition humaine avec des moyens d'augmentation des performances, etc. Donc je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus à court terme ou à moyen terme, et que on a trop souvent utilisé ces personnages qui sont les soutiens du transhumanisme pour dire « Oh, mais nous, on n'est pas comme ça, nous, on n'y croit pas, et nous, on ne fait pas du tout cela. » Et donc, continuer, circuler, il n'y a rien à voir. Je crois qu'il faut raisonner, ne pas focaliser sur ces gens-là, et raisonner plutôt sur les transformations qui sont à l'œuvre aujourd'hui et maintenant dans notre société. Et les technosciences sont déjà là, elles sont déjà en train de nous gouverner, déjà en train de nous transformer, et donc réfléchissons sur nous-mêmes plutôt que sur cette secte, parce que c'est quand même un peu une secte.
Merci beaucoup Bernadette Bensaud-Vincent d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.